Réplique, De Gaulle revisité, avec Serge Berstein et Michel Vinocq. On fêtera en 2020 le 130e anniversaire de la naissance du général de Gaulle, le 50e anniversaire de sa mort et le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, cette grande date que Patrick Boucheron et son équipe n'ont pas cru bon de retenir dans leur histoire mondiale de la France. 2020 sera donc triplement l'année de Gaulle. Et nous prenons aujourd'hui les devants avec Michel Vinocq, qui publie « Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire », et avec Serge Berstein, auteur de « La République gaulienne », ainsi que d'une histoire du gaullisme. À ces deux historiens éminents, je voudrais d'abord demander de faire un effort de mémoire personnelle. Vous avez été, l'un et l'autre, contemporains de Gaulle. Vous avez vécu sous son règne, ou pour le dire de manière plus républicaine, sous ses deux mandats. Que représentait-il pour vous alors? Étiez-vous gaulliste, Michel Vinocq?
Vous me permettrez de faire une citation qui traduit très bien mon état d'esprit évolutif. En 2010, le ministère de l'Éducation nationale avait mis au programme du baccalauréat les mémoires de guerre du général de Gaulle qui avaient été publiées dans la Pléiade 10 ans plus tôt. Ça provoquait un tollé chez certains, une polémique, pour nous dire, premièrement, c'est une écriture qui est complètement obsolète, archiclassique, et deuxièmement, pour nous dire, c'est de la politique. Et à cette opposition, Claude Lanzmann et son équipe des temps modernes ont tenu à répondre. Je vous cite ce que dit Lanzmann de Gaulle, avec quoi je communie tout à fait. La disparition de Gaulle me porta un coup bien plus dur que je ne l'aurais imaginé. Comme si un pan entier de mon monde s'anéantissait avec lui. Amis, ennemis, amis de rechef, De Gaulle nous était consubstantiel. La France sans lui, nos vies personnelles sans lui, étaient atteintes d'un manque tout à fait historique et existentiel, tout à la fois historique et existentiel, dont ceux de ma génération prirent d'emblée la mesure. Je retiens amis, ennemis, amis de rechef pour répondre à votre question. Ami, rétrospectivement, évidemment, de l'homme du 18 juin, du chef de la France libre, du libérateur, du reconstructeur, du rebâtisseur de la République, en tout cas, c'est indiscutable, j'étais trop petit pour m'en rendre compte naturellement, c'est un souvenir, mais que j'ai entretenu jusqu'au moment où, en 1956, j'ai lu... l'appel de le premier tome des Mémoires de guerre qui m'avait ébloui. Et puis, 1958 arrive, et là, je passe à ennemi, parce que j'estime que le retour du général de Gaulle se fait de manière complètement illégale, par un coup de force, avec l'appui de l'armée qui nous menace d'un putsch. C'est la première fois que je vais voter, j'ai 21 ans, et je vote non à la constitution de la Ve République. Et les choses ont changé progressivement dans les années qui ont suivi. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait le problème de l'Algérie. Or, on nous disait, c'est-à-dire les journaux de gauche, les intellectuels de gauche, m'apprenaient que si De Gaulle avait été appelé par l'armée, par les activistes de l'Algérie française, pour garder l'Algérie française, il ne pourra faire autrement que d'accomplir ce pourquoi il avait été rappelé. je n'avais absolument pas compris vraiment qui était De Gaulle à ce moment-là, et on a pu s'en apercevoir par la suite. Donc, lorsque la paix en Algérie a été signée, les accords d'Évian, lorsque par la suite De Gaulle a montré qu'il avait une politique extérieure qui redonnait à la France un rang, une neutralité, une indépendance. Là, je crois que je suis redevenu largement un ami. Et puis, quand il est mort, évidemment, j'ai eu le sentiment qu'on venait de perdre vraiment un des grands hommes, peut-être le plus grand homme français du siècle.
D'ailleurs, vous l'avez écrit parce que vous citez Lanzmann, Michel Vinocq, mais vous avez publié récemment votre journal politique de 1958 à 1981. Et à la date du 10 novembre, vous écrivez ceci. Mort du général de Gaulle, quelques griefs que j'ai eus contre lui, je ne peux plus, prenant du champ, que voir l'ensemble de cette destinée incomparable au fond de moi. Et malgré tout ce que j'ai nourri contre le régime qu'il avait instauré, ai-je seulement voté une seule fois oui à ces référendums? Au fond de moi, je retrouve l'émotion que j'avais éprouvée, l'admiration profonde que j'avais ressentie à la lecture de l'appel quand je sortais à peine de l'adolescence. Cet homme-là nous a tous grandis. Donc ça, vous l'avez dit, le jour même de sa mort. Et qu'en est-il de vous, Serge Verstein?
Eh bien, écoutez, la démarche est assez proche, au fond, de celle de Michel. Hein. J'ai un peu quelques années de plus que lui. Je n'ai pas entendu l'appel du 18 juin. Il n'y avait d'ailleurs pas la radio chez moi, donc ça résolvait le problème. Mais au fil de la guerre, entre 6 et 10 ans, je me suis au fond éveillé dans un monde qui était celui de l'occupation, avec tout ce que ça entraînait, à la fois pour moi-même et pour ma famille. Et pour moi, De Gaulle a été, à partir du moment où, étant chez une tante en province, j'ai entendu la radio de Londres, une sorte de héros, de paladin, qui se dressait contre une situation absolument inacceptable. Et donc j'ai 10 ans au moment de la libération, et De Gaulle, bien, c'est pour moi, à ce moment-là, le héros. Et je dois dire, ça le reste longtemps, même après son départ du pouvoir, parce qu'il y a tout ce souvenir de ce qu'il a représenté à l'époque où je m'éveillais au fond à la vie et où je prenais très lentement conscience, je dirais, des problèmes politiques. Et là, c'est tout à fait parallèle à la situation de Michel Vinocq. En 1958, la situation est complètement différente. À l'époque, je suis instituteur, je suis de gauche, considère que la République, c'est le Parlement, et que par conséquent, De Gaulle est l'homme des insurgés d'Alger, des fascistes, comme on disait à l'époque. Voilà. Et donc, son arrivée au pouvoir m'a totalement déconcerté, et je dois dire que je suis resté anti-gaulliste pendant tout le règne du général De Gaulle. Je n'ai pas voté non à tous les référendums parce qu'il y a eu le référendum sur l'autodétermination et celui sur l'indépendance de l'Algérie où j'ai voté oui, mais pour le reste, j'ai voté non, y compris au référendum de 1969. Alors, je voudrais simplement ajouter un mot, c'est que je préparais à l'époque l'agrégation d'histoire. Depuis, j'ai été historien et donc j'ai écrit sur le gaullisme, en particulier à la demande de Michel Vinocq, puisque il a été le directeur de la République gaullienne, qui était un des tomes de l'histoire, la nouvelle histoire de la France contemporaine. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que mon attitude, au fond, était un peu épidermique, superficielle, et que, travaillant en historien, je me rends compte que le général de Gaulle a accompli une œuvre tout à fait considérable qu'au jour le jour, je n'en avais pas pris conscience.
Est-ce que vous diriez l'un et l'autre, comme Régis Debray, dans son livre célèbre « À demain de Gaulle », ce nom propre à saveur de remords, celui des retards qui ne se rattrapent plus, de la dette qui ne sera pas payée. Oui, parce que lui-même avait commencé par le refus, et il est devenu gaulliste après la mort du général de Gaulle. Est-ce que c'est votre cas à l'un et à l'autre?
J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression que c'est le cas de Serge Oberstein et le mien. Peut-être suis-je devenu un peu plus gaulliste que lui, mais ça peut, on pourra le préciser. Post-gaulliste ou rétro-gaulliste, je ne sais comment dire. Mais c'est vrai que en tant qu'historien, comme lui, en pesant ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire, vraiment, je crois que j'ai eu tort. Je ne dis pas que j'ai du remords, parce que, il y a un effet de jeunesse, il y a, n'oublions pas qu'en 58, comme Serge Oberstein, j'étais à gauche, mais surtout très militant contre la guerre d'Algérie, et lorsque, De Gaulle a été rappelé, on peut le dire, par Alger, c'était vraiment insupportable. Mais, encore une fois, j'étais naïf, parce que je ne saisissais pas que De Gaulle ne se laissait pas dicter sa conduite, n'est-ce pas, même par ceux qui le ramenaient au pouvoir.
Alors, justement, pardon, Serge Oberstein.
Oui, je pense qu'il y a quand même une explication historique, si je puis dire, cette évolution. C'est que après tout, nous avons, dans notre jeunesse, été les héritiers d'une conception de la République qui impliquait que le parlementarisme, représentant la volonté nationale, avait normalement la prééminence dans les institutions. Et c'était partagé, nous étions jeunes à l'époque, par une grande partie, au fond, de cette société française qui vivait encore sur l'héritage des débuts du XXe siècle de la culture républicaine telle que l'affaire Dreyfus l'a léguée à la France du début du XXe siècle. Et de ce point de vue, effectivement, l'écart avec une république gaullienne où le président décide à peu près de tout était énorme, était béant. Et je crois que le chemin que nous avons accompli, c'était le chemin qui passait de la culture héritée à la vision de la réalité du moment.
Vous étiez jeune, mais n'étiez-vous pas là, fatigués l'un et l'autre de l'inefficacité et des magouilles de la Quatrième République? Vous dites, la République, c'est le parlementarisme. Mais quand même, la Quatrième République, c'était des gouvernements qui duraient peu de temps, c'était des ententes entre partis, et c'était une France, sinon ingouvernable, du moins très difficile à gouverner. Alors comment s'appuyer sur cette référence pour voir d'emblée dans De Gaulle un dictateur et dans sa réforme institutionnelle un danger pour la République?
Parce que il y avait par contre-champ, en quelque sorte, avec tout ce que vous dites et qui est réel, sur les magouilles de Parlement, etc., un autre exemple qui nous était donné, qui est oublié presque aujourd'hui, très important pour l'époque, qui était celui du mendécisme.
Michel Vinocq.
Mais précisément, moi, je me sens moins héritier que Serge. De la République parlementaire. À vrai dire, je n'avais pas poussé très loin ma réflexion à l'époque, hein. C'est plutôt a posteriori. Mais justement, j'ai été éveillé à la vie politique par Mendès France, par l'arrivée de Mendès France au pouvoir. Or, celui qui a été l'homme politique le plus populaire de la Quatrième République, qui nous a donné tant d'espoir et parfois tant de satisfaction et de joie par son action, eh bien, il a été au pouvoir moins de 8 mois. C'était des ministères qui n'en finissaient pas d'être rompus au bout de quelques mois, etc. Personnellement, je n'avais pas la religion de la République parlementaire. Mais, encore une fois, je n'y pensais pas. Je n'avais pas fait de réflexion. Ce que j'espérais, au fond, c'était le renouveau d'un front populaire, l'alliance de la gauche et de la droite. Oui, mais il se trouve que c'était impossible à l'époque et que cela, il fallait aussi en tenir compte. Quoi qu'il en soit, cette constitution accordait au pouvoir exécutif une puissance, une telle puissance qu'elle n'était pas conforme, effectivement, à une tradition républicaine.
Oui, alors, comment expliquez-vous, parce que vous, vous étiez Mendès VI, moi j'étais quand même trop jeune pour l'être, mes parents l'étaient, et Mendès incarnait vraiment un espoir pour toutes sortes de Français, dans des catégories très différentes. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait jamais pu avoir d'entente entre De Gaulle et Mendès, alors que malgré tout, Mendès avait rejoint De Gaulle à Londres, et que ces deux personnalités se respectaient. Pourquoi ça ne pouvait pas marcher?
Alors, la question, au fond, se posait de manière, comment dirais-je, légèrement différente. C'est-à-dire que Mendès France a été un président du Conseil apprécié par toute une partie de la jeunesse de l'époque, incontestablement. Mais, en même temps, c'était un personnage extrêmement intransigeant sur les vertus républicaines telles que la Troisième République les avait créées. C'était un radical socialiste, il faut le rappeler, toujours fidèle au parti radical. Il se trouve que, lors d'un colloque, au moment d'un déjeuner, je m'étais trouvé à côté de lui. Et je lui ai posé la question que beaucoup des gens de ma génération se posaient. Pourquoi Mendès France n'a-t-il pas, au lendemain de son expérience gouvernementale, créé une force politique neuve que la jeunesse aurait probablement acceptée avec enthousiasme? Et sa réponse a été, faire un parti comme De Gaulle l'a fait avec le RPF, c'est impossible, c'est du fascisme. Alors, il avait incontestablement tort, mais en même temps, je crois que ça traduisait très profondément sa vérité. C'est dans le Parlement, c'est dans un parti politique classique comme le radicalisme que s'incarne l'idée républicaine. Alors, on sait aujourd'hui que les choses ont changé. On ne le savait pas à l'époque.
Michel Vidocq.
Notons que Mendès France a toujours respecté De Gaulle. Il l'a toujours admiré. Il admirait, évidemment, le chef de la France libre. Mais, contrairement à Mitterrand, notamment, qui a fait de De Gaulle son ennemi préféré, si je puis dire. Mais Mendès était un homme de conviction, on vient de le dire, et je crois qu'il s'est trompé en 58. Ou plus exactement, il s'est trompé en 62, lorsque on a fait voter l'élection du président de la République au suffrage universel. Et ça, c'était absolument contre toutes les traditions républicaines, avec ce souvenir encore très aigu chez ces républicains de Napoléon III, du pouvoir personnel, ils ne voulaient pas de ça. Donc, Mendès France, quand on lui a proposé d'être le candidat, et je dirais le candidat naturel à ce moment-là, de la gauche, à l'élection de 1965, il a dit « ne comptez pas sur moi, il n'en est pas question ». Et à ce moment-là, il a perdu pied. Il a cru que la Ve République ne ferait qu'un temps, celui du général de Gaulle, et que après De Gaulle, on en reviendrait à une autre République beaucoup plus conforme à ses idées. Donc il y a eu une erreur stratégique, mais qui tenait à ses convictions, je dirais, de vieux républicains.
Le vieux républicain qui, en 1969, il faut le rappeler tristement, a consenti à faire un ticket avec Gaston Defferre et à se présenter à l'élection présidentielle où, je crois, ils ont tous deux obtenu 5% des voix. Ce fut un désastre pour la gauche.
Et c'était une belle contradiction de Mendès France.
C'était une belle contradiction de Mendès France. Mon plan est bouleversé, mais c'est très bien. Je croyais que nous allions suivre l'ordre chronologique. Le sauveur d'abord, pour reprendre votre expression, Michel Vinocq, le législateur ensuite. Nous avons commencé par le législateur. Continuons. Qu'est-ce que vous retirez de l'expérience de Gaulle au pouvoir, Michel Vinocq?
Je pense que le bilan est, comme dirait l'autre, globalement positif. C'est-à-dire que n'oublions pas que nous avons eu en France une série de républiques avant la Ve, et que ces républiques étaient d'une instabilité maladive. Et quoi qu'on pense de cette Constitution, ce que je pouvais en penser à l'époque, elle a quand même réussi à établir en France un régime stable. 60 ans, on en arrive presque aux 65 ans de la Troisième République. Mais alors que la Troisième République avait été sans arrêt, et surtout entre les deux guerres, ballottée, chaotée, avec des ministères qui ne duraient pas, des coalitions qui ne duraient pas. Songez que en 1924, en 32, en 36, la gauche gagne les élections et au bout de deux ans, sa coalition, la coalition de gauche, se défait à cause des contradictions de ses partis. De Gaulle a réussi cela. Je crois que c'est un des grands héritages de nous avoir donné une vie politique relativement stable. Et puis, je dirais que, et là, je reprendrai les écrivains, Malraux, Bernanos, Romain Gary, Régis Debray, qui font de Gaulle autre chose qu'un homme politique ordinaire, si grand fut-il, mais c'est un homme tout à fait, je dirais, d'une autre dimension, parce qu'en lui brûle quelque chose qui s'appelle un pouvoir spirituel. Il ne veut pas seulement la grandeur, je dirais, d'ailleurs il ne s'abuse pas à ce sujet, il est bien certain que la France est devenue une puissance secondaire, mais il y a ce désir de maintenir par la France, sur la France, à propos de la France, cette grandeur spirituelle qui a fait date. Pour lui, il n'est pas négligeable, évidemment, de s'occuper des affaires, ce qu'on appelle les affaires sociales, économiques, mais ce n'est pas, on le comprend, ce qui importe le plus à ses yeux. Sa passion, c'est la France, c'est sa seule passion, on pourrait dire, et à ce sujet, il veut que ce pays, son pays, qui est un pays, il faut bien le dire, et une histoire, il faut bien le dire, quelque peu mythologique, eh bien, il faut qu'elle continue néanmoins à être ce qu'il appelle l'avant-garde de la civilisation.
Serge Berstein.
Je crois que De Gaulle réalise, grâce à la conjoncture de l'époque, mais aussi à sa vision du monde, quelque chose qui est l'adaptation de la vie politique française au monde de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec de nouveaux problèmes, de nouveaux éléments de conflictualité. Alors d'un côté, il faut quand même rappeler que le règne de De Gaulle correspond au développement des fameuses Trente Glorieuses économiques qui ont quand même beaucoup aidé son œuvre, hein, c'est quand même le moment où le pouvoir d'achat des Français, même s'ils pensent le contraire, triple à peu près en 10 ans pendant la décennie gaullienne. C'est quand même quelque chose d'énorme pour assurer la stabilité d'un pays. Mais en même temps, il y a chez lui une vision du monde telle qu'il se présente après la Seconde Guerre mondiale, avec ces deux grands que sont les États-Unis et l'Union soviétique qui dominent le monde et qui, par conséquent, ne laissent en quelque sorte que des poussières aux grandes puissances d'avant 1940. Et de ce point de vue, Michel Vinocq le démontre très bien dans son ouvrage, De Gaulle sait bien qu'il n'est pas à la hauteur des grandes puissances, mais il fait comme si, Michel Vinocq insiste là-dessus, il y était, et par conséquent, il va, par son verbe et l'écho qu'ont ses discours, donner le sentiment au monde que la France se présente comme une grande puissance. Voilà.
C'est une idée très forte chez lui. Aussi bien en 1940, vous rendez compte que cet homme pratiquement inconnu, général depuis très peu de temps, temporaire même, petit général, petit, de non brigade. Pas par la taille, mais général de brigade, c'est-à-dire le moindre des généraux, qui arrive à Londres, sans armée, sans armée, sans soutien véritable, et qui ose, qui a l'audace incroyable de lancer cet appel du 18 juin à la résistance. Vous rendez compte, c'est difficile. Maintenant, on commémore cette date, je dirais, de manière un peu banale. Il faut faire un effort d'imagination pour voir ce que ça représentait. Et c'est pourquoi il a été l'adversaire ou l'objet d'un très grand mépris au départ, de la part de beaucoup, non seulement de ceux qui se rallient à Vichy, mais aussi des alliés. À l'exception de Churchill, parce que tout de même,
vous dites très bien ça.
Il faut rendre hommage avec celui avec lequel il sera très souvent en désaccord pendant la guerre.
Violent.
Et parfois violemment. Churchill a été, il lui a mis le pied à l'étrier. Il lui a permis de parler à la BBC et il a été le premier à reconnaître que De Gaulle incarnait, représentait la France libre, qu'il était le chef de la France libre. Ça, c'est considérable. C'était une manière de légitimer dans une entreprise aventureuse, une aventure folle. Donc, c'est un moment tout à fait extraordinaire.
Oui, alors, justement, De Gaulle a fait comme si, et à force de faire comme si, il a réussi dans son entreprise, il a incarné la France combattante, puis la France libre. Il s'est identifié à la France en dénonçant tout de suite l'armistice et la collaboration. Ce double naufrage de la vieillesse, pour ce qui est du Maréchal Pétain, et de la nation. Un président qui est mort il y a peu, Jacques Chirac, qui s'inscrivait dans la tradition du gaullisme, a dit, il y a un jour, dans son discours du Veldiv, que la France a commis l'irréparable, ce que, évidemment, De Gaulle n'aurait jamais pu énoncer. Est-ce que cette attitude, ce discours, représente un progrès ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une rupture, finalement, négative, avec l'héritage du général De Gaulle ? Michel Vinocq.
Pour ma part, quand j'ai entendu ce discours, j'ai été très largement content, parce qu'il me semblait que sur Vichy, tout de même, il n'y avait pas encore de vérité, non pas de la part des historiens, mais de la part de l'opinion publique. On ne savait pas véritablement quels avaient été les actes de complicité avec l'entreprise nazie de la part de Vichy. Donc, De Gaulle, vous dites, ne l'aurait pas admis. Oui, parce que la France n'était pas à Vichy.
Eh oui, oui.
Pour lui...
Rome n'est plus dans Rome.
Eh oui.
Rome est là où je suis.
Oui, seulement, vous avez tout à fait raison. Il faut dire que pour les 40 millions de Français qui vivaient dans l'Hexagone, ils avaient tout de même l'impression que Vichy représentait, qu'il le veuille ou non, la France.
Vous êtes d'accord, Serge Verstein ?
Non, pas sur ce point. Je pense en effet que Chirac, à ce moment-là, rompt, c'est une des nombreuses ruptures de Chirac avec le gaullisme. Il s'est trouvé que dans d'autres lieux, j'ai été amené à en parler. Mais sur ce plan-là, ça me paraît tout à fait évident. C'est une rupture avec un principe que le général de Gaulle a mis en avant et que Michel Vinocq rappelait à l'instant, Vichy n'est pas la France. Et par conséquent, le gouvernement de Vichy est un gouvernement honteux que le général de Gaulle et François Mitterrand d'ailleurs, bien qu'il ait eu davantage, de gentillesse, vis-à-vis du régime de Vichy, l'un et l'autre ont estimé qu'ils n'avaient pas à être, au fond, les héritiers de Vichy pour s'en excuser. Il est vrai, par ailleurs, que le gouvernement de Vichy était, à l'époque, le gouvernement légal de la France, reconnu sur le plan international par plus de 30 États, y compris le Vatican et l'Union soviétique. Y compris par les alliés, voilà, qu'on ménageait. Churchill, on le sait, a beaucoup voulu ménager Vichy. Et, par voie de conséquence, les choses ne sont pas si simples. Mais on peut comprendre l'attitude de De Gaulle sur ce plan-là, puisque lui-même n'était en rien solidaire d'un quelconque antisémitisme tel que Vichy l'avait pratiqué, c'est à l'évidence.
Il faut savoir aussi que si Serge Klarsfeld s'est montré très satisfait de ce discours qu'il a d'ailleurs lui-même inspiré, Robert Badinter y a été très opposé. Dans un entretien à l'historien Sébastien Ledoux, il a qualifié les propos du président de mots irréparables. Il a blâmé leur confusion avant de conclure « Nous, républicains, nous n'avons rien à voir avec le régime de Vichy. Mais là, j'ai une autre question à vous poser qui me tourmente depuis longtemps. De Gaulle a contesté l'armistice. Je ne veux pas, si vous voulez, rétablir aujourd'hui la thèse du bouclier, mais si les Allemands avaient directement gouverné la France, s'il n'y avait pas eu, justement, de Pétain, la divine surprise exprimée par Maurras, est-ce que les Français s'en seraient trouvés mieux? Quelle alternative y avait-il réellement à l'armistice? Question sans doute naïve, mais qu'on ne peut pas manquer de se poser.
Alors,
Michel Vinocq.
Il y avait une alternative qui s'appelle la capitulation, voilà. C'est-à-dire la reconnaissance de la défaite militaire qui permettait par conséquent de continuer la lutte, puisqu'il n'y avait pas d'armistice, soit, alors dans un premier temps, on a parlé du réduit breton, puis on a parlé de l'Afrique du Nord en particulier, et n'oublions pas le Massilia, ce bateau qui a emmené une vingtaine de députés qui comptaient bien, y compris Mendès France, du reste et d'autres, qui comptaient bien continuer la lutte, n'est-ce pas? Il y avait, ce que De Gaulle a démontré par la suite, une possibilité de résistance. N'oublions pas que la France avait un empire et que cet empire pouvait être un support, la base d'une continuation de la guerre, ce que De Gaulle a très bien expliqué et finalement réalisé.
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Michel Vinocq, d'autant que... il est évident qu'en juin 1940, où se joue le sort du pays, qu'il y a un petit groupe qui comprend quelques hommes politiques, mais qui comprend surtout le maréchal Pétain, le général Weygand, qui entend à tout prix, signer l'armistice et à tout prix empêcher le départ des pouvoirs publics en Afrique du Nord. Donc il y a une volonté de prise du pouvoir par ces groupes qui, effectivement, y sont parvenus et qui s'apparentent, pour le général de Gaulle et pour beaucoup de gens, à une sorte de trahison pour récupérer le pouvoir. Donc, je pense que sur ce point, il y a effectivement une alternative. J'admets que celle du général de Gaulle, si on réfléchit rationnellement, était désespérée et voué à l'échec, ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que ça n'a pas été cette issue-là, mais au contraire, celle de la victoire. Mais il y avait d'autres solutions. Sauf que ces autres solutions ne donnaient pas le pouvoir à ceux qui aspiraient à s'en emparer.
Alors, une trahison, dites-vous,
oui,
qui est allée jusqu'à la collaboration avec la solution finale, pour permettre justement au régime de Vichy d'exercer sa souveraineté. On peut penser, en effet, que cet engrenage était terrible, et personnellement, j'aurais souhaité entendre dans la bouche de Jacques Chirac, l'État français a commis l'irréparable. Je crois que c'était une meilleure formulation.
Certainement.
Bon, alors, nous sommes d'accord, et j'en viens maintenant à ce qui fait le lien entre le sauveur et le législateur, l'idée d'une vocation de la France. Parce que chez De Gaulle, qui s'est toujours fait une idée de la France, cette vocation et cette idée sont fondées sur une tradition et sur une identité, sur une histoire. Et là, je vais vous lire un passage abondamment commenté depuis quelque temps du C'était De Gaulle d'Alain Perfit. Où justement, De Gaulle donne les raisons pour, c'est la raison fondamentale pour laquelle il a voulu l'autodétermination de l'Algérie. Que la France se sépare de l'Algérie, il ne croyait pas à l'intégration. Et il a ces phrases. C'était très bien qu'il y ait des Français jaunes. C'est très bien, pardon, qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races, qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas, voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40. Mon village ne s'appellerait plus Colombey les deux églises, mais Colombey et les deux mosquées. Alors, adhérez-vous à ce discours? Est-ce pour vous un dérapage de Gaulle ou a-t-il une certaine force prémonitoire, Michel Vinocq?
Ben, tout d'abord, parlons de chiffres. Vous dites 10 millions d'Algériens. La France n'est pas aujourd'hui... D'abord, la France, le peuple français fait plus de 66 millions d'habitants. Et que je sache, les Algériens, ou plutôt les Français issus d'Algérie et du Maghreb... sont 5 à 6 millions. Ce n'est pas la même proportion. Bon, mais ne parlons pas de cela, parce que ça paraît d'une casuistique peut-être un peu primaire. Je crois que De Gaulle était un homme de sa génération, avec les préjugés qu'il pouvait avoir de son temps... Et il avait une certaine idée de la France, comme il dit, dès l'introduction, dès la première phrase de ses mémoires, qui était d'une France héritée très largement des siècles passés. Romain Gary disait de lui qu'il incarnait les 10 siècles qui avaient précédé, il incarnait 10 siècles d'histoire française. Et que cette histoire française, eh bien, il est certain qu'il... continuait à la voir se reproduire comme il l'avait connue, et non pas avec des minorités très importantes qui ne correspondaient pas évidemment à son idée de l'unité française. Ça, je l'accorde. Mais je voudrais signaler quelque chose, c'est que comme on a beaucoup cité cette phrase que vous avez lue parmi d'autres, mais celle-ci a été très citée récemment, pour en faire la raison pour laquelle De Gaulle ne voulait pas garder l'Algérie française. Ça, c'est absolument pas un argument pour moi. Le vrai argument, c'est qu'il voulait en finir avec une guerre qui ne finissait pas et qui lui interdisait de faire cette politique de grandeur comme il le voulait. Donc ne mettons pas cet épisode ou ces propos, qui sont un peu des propos de table, n'est-ce pas, comme une raison déterminante de sa politique algérienne.
Ce sont des propos de table, à votre avis aussi, Serge Verstein?
Je ne pense pas. Je crois que ça traduisait la pensée profonde du général de Gaulle, avec ce hiatus tout de même important, que je suis absolument et totalement convaincu que de Gaulle ignorait complètement ce qu'il allait faire de son pouvoir quant à la guerre d'Algérie. Et les différents discours, tout de même, que l'on peut résumer les uns après les autres, montrent que son idée, c'est, selon son propos, il voulait la solution la plus française, c'est-à-dire conserver le maximum de liens avec l'Algérie, mais sans effectivement pour autant déstabiliser la population française. Alors, il y a deux manières de juger ça. On peut considérer qu'après tout, c'est une position assez raciste. Hein, un Français, c'est un Européen blanc, si possible catholique, etc. Et il ne porte pas de djellaba.
Voilà. Il dit quand même, c'est très bien qu'il dit des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle.
Voilà. Voilà. Alors donc, il y a cette idée-là. Et puis, il y a le problème concret qui existe, parce que au fond la France a toujours été une terre d'immigration, et il est évident que cette terre d'immigration a provoqué de vives tensions avec la population déjà installée. Il faut penser par exemple aux chasses aux Italiens qui se sont produites au début du XXe siècle, hein, avec des morts, avec de véritables pogroms. Et de ce point de vue, on peut comprendre qu'un gouvernant se pose le problème de l'immigration importante. Alors je sais bien que le problème a des résonances contemporaines, mais j'admire ceux qui sont capables d'avoir une vision tranchée et équilibré sur cette question.
Oui, c'est vrai, c'est très difficile. La France a toujours été un pays d'immigration, l'immigration de masse. Vous parlez des Italiens, notamment, a commencé...
Des Polonais.
Dans le deuxième tiers du 19e siècle. Donc, c'est pas toujours... Et l'intégration des Italiens en deux ou trois générations s'est opérée sans problème. Mais je voudrais vous livrer une autre citation qui m'a beaucoup frappé du général de Gaulle pour vous interroger sur la postérité du gaullisme et pour dire aussi à Michel Vinocq que je ne suis pas sûr que les propos imperfides aient été des propos de table. En 1950, à Saint-Maurice, de Gaulle a donné la philosophie de ce qui était alors le RPF. Il y a trois flammes en France qui toutes les trois ont fait, d'une certaine manière, la nation française, et dont il faut que nous les ayons avec nous et parmi nous. Il y a ce que j'appellerais la flamme sociale, la flamme de ceux qui ne veulent pas de l'injustice sociale. Il y a la flamme proprement chrétienne, qui d'ailleurs au fond est de la même source que la première et inversement. La flamme proprement chrétienne, nous sommes un pays chrétien, c'est un fait, nous le sommes depuis très longtemps, nous sommes façonnés par cette flamme-là. Enfin, il y a la flamme de la tradition. Cela est une chose qui existe dans notre pays et qui doit exister. On ne peut pas faire la France en reniant le passé tous les jours. Tout se tient. Nous venons d'un fond du passé et, comme disait Jaurès, je n'ai pas peur de le citer, nous allons vers la mer. Nous sommes un fleuve qui va vers la mer, mais en y allant, nous prétendons être fidèles à nos sources. La flamme de la tradition est indispensable aussi pour rebâtir un grand pays. La flamme de la tradition, elle est aussi la nôtre. Alors, ma question, c'est ces flammes. Là, brûle-t-elle encore ? Que reste-t-il du gaullisme de De Gaulle dans la politique d'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui ? Michel Vinocq.
Tout d'abord, si j'ai employé l'expression « propos de table », c'était pas pour minimiser le propos, mais pour bien dire qu'il s'agit de conversations rapportées par Alain Perfitte et que ce propos-là n'a jamais été présent dans ses discours ou dans ses écrits. Je tenais à le souligner. Voilà. D'autre part, c'était en 1950.
Oui.
Nous sommes tout de même 70 ans plus tard. Et je ne sais pas, je ne peux pas, et vous ne savez pas, et personne ne sait ce qu'aurait été aujourd'hui l'attitude du général de Gaulle devant tous les problèmes, celui que vous évoquez, mais aussi le problème de l'Europe, etc. Ne faisons pas trop parler les morts. Ce qui est certain, c'est que de Gaulle s'inscrit dans une légende qui est à la fois celle de son pays, je dirais, idéalisé, à travers ces grands hommes, ces grands moments, une histoire, je le disais tout à l'heure, quelque peu mythologique, et une légende sur lui-même, de sa personne, car il l'a justifié pendant la guerre. On le disait tout à l'heure, Il n'a rien au départ, il n'est soutenu par personne. Et peu à peu, il aura une armée. Mais que pèse-t-elle par rapport aux forces des alliés, etc. Eh bien, pour compenser cela, il faut une légende. Et il le dit lui-même, la légende de Gaulle. Il s'est créé légendaire, véritablement. Il était peut-être légendaire aux yeux de beaucoup, mais il a fabriqué également ce personnage tout à fait hors du commun, hors ligne. Excusez-moi, mais je préfère laisser de Gaulle en son temps quand même. Alors que reste-t-il du gaullisme ? Je crois qu'il reste un exemple. Il reste également une constitution qui est amendable, certainement. Mais par ailleurs, je ne crois plus qu'il y ait aujourd'hui un parti gaulliste. Car un parti gaulliste sans De Gaulle, je crois que ça ne peut pas exister.
Serge Bernstein.
Oui, je suis assez de l'avis de Michel Vinocq sur ce plan-là. Je crois qu'il n'y a pas de postérité du gaullisme à proprement parler, sauf effectivement l'élément institutionnel dont le socle n'a pas bougé depuis 1958. Il y a eu 25, je crois, révisions constitutionnelles sur des points de détail. Mais au fond, la constitution gaullienne, son originalité, c'est de faire du chef de l'État élu au suffrage universel le véritable souverain du pays, un souverain qui est électif, temporaire, et qui, à la fin de son mandat, ne cesse d'être un souverain. Et par conséquent, ce legs, il est, je crois, remarquable et fondamental, parce que jamais aucune révision n'a touché à ce point fondamental, nodal, du système constitutionnel gaulliste. Sur ce point, l'héritage est évident. Ailleurs, il y a eu, bien sûr, des mutations. Et il serait à beaucoup d'égards regrettable que tant d'années après la disparition du général de Gaulle, sa disparition du pouvoir et sa disparition physique, les problèmes soient tellement identiques qu'on pourrait trouver chez de Gaulle des solutions. Et on peut, à mon avis, d'autant moins en trouver que, pour moi, le gaullisme se résume au fond à cette double idée que le rôle du gouvernement, quel qu'il soit, c'est d'assurer la grandeur de la France et que pour qu'il puisse le faire, il faut que l'État soit fort. À mon sens, en dehors de ces deux éléments fondamentaux, le gaullisme a beaucoup varié dans tous ses domaines, dans toutes ses politiques et le temps s'écoulant, il serait en quelque sorte absurde de chercher à savoir comment De Gaulle aurait résolu tel ou tel problème.
Oui, peut-être
le problème climatique en politique dont extérieure. Il ne s'est pas occupé, par exemple.
Oui, en politique extérieure, peut-être. C'est parce vrai. Que quand nous avons entendu tout de même le discours de Villepin en 2003 à l'ONU, franchement, c'était d'une sonorité gaullienne,
c'est vrai.
Gaulliste. Indiscutable. Et au fond, la France, assez durablement, a voulu se distinguer de la politique américaine, tout en reconnaissant les États-Unis comme des alliés, a voulu rester souveraine dans cette politique extérieure, assez largement. Ça, je crois que c'est un héritage.
C'est un héritage, mais c'est intéressant d'ailleurs que le discours de Villepin, dans son discours, Villepin ait parlé, il était membre d'une vieille nation. C'est-à-dire que De Gaulle ne pensait pas qu'il puisse avoir en Europe un cadre politique au-dessus de la nation. Et je ne suis pas sûr que l'avenir lui ait donné tort. C'est la nation qui a la vigueur politique et celle-ci manquera toujours à Bruxelles.
Nous sommes d'accord avec cette idée, mais De Gaulle est un fidèle d'une conception de l'État-nation. Pour lui, la géopolitique, c'est d'abord la géographie des nations et l'histoire des nations. D'accord. Seulement, n'oublions pas que c'est un homme lucide et qui sait très bien que la France de 1958 ou 60, ce n'est pas celle de Napoléon ou de Louis XIV. Et il sait parfaitement qu'il aura besoin, précisément pour garantir la grandeur de la nation française, il aura besoin de l'Europe. Rappelez-vous, il a quand même lancé, il a échoué, mais il a lancé le plan Fouché, qui était l'idée, le projet d'une confédération. Confédération. C'est-à-dire que les nations gardaient leur autonomie, mais qu'elles avaient en commun une politique extérieure, une armée, etc. Donc, il n'était pas du tout anti-européen.
Oui, c'est pas ce que je voulais dire non plus. Un mot pour finir, Serge Perstein.
Oui, eh bien, oui, à l'évidence, la vision de l'Europe du général de Gaulle était profondément différente de celle des fondateurs de l'Europe qui visaient une supranationalité. On en est très loin, le général de Gaulle ne l'a jamais accepté, mais il faut bien dire également que depuis, l'Europe est à moitié inachevée. C'est-à-dire que, bon, il y a un certain nombre d'éléments qui font que l'Europe existe, mais en même temps, sur des éléments fondamentaux, on peut penser à la politique extérieure, on peut penser à l'économie, on peut penser aux problèmes culturels, et puis ne serait-ce que à la multiplicité des langues qui constitue l'Europe, tout cela fait que on s'est arrêté au milieu du gué et que l'Europe telle que la voyait le général de Gaulle n'a jamais non plus pris naissance.
Oui, du général de Gaulle n'a pas pris naissance, mais d'un autre côté, on ne peut pas défaire l'Europe, c'est-à-dire la diversité de ses nations et de ses langues, pour faire l'Europe. Merci beaucoup Serge Perstein, merci Michel Vinocq. Michel Vinocq, vous publiez Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire, dans la collection L'Esprit de la Cité, chez Gallimard. Serge Perstein, vous avez écrit La République gaulienne, au seuil, ainsi qu'une histoire du gaullisme aux éditions Perrin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Chard et Alexandre Manzanares, à la technique aujourd'hui, Valérie Lavalard, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.